Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter un dossier publié dans le numéro 45 du magazine bimestriel et média partenaire Famosa. Des textiles made in Périgord, rêve ou réalité, c'est le titre du dossier. Bonjour Nelly Fraille.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Famosa et avec votre équipe, vous avez consacré un dossier au domaine du textile en Périgord. Consommation, production, relocalisation des savoir-faire. Tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi de publier ce dossier ?
Nous pensions à ce dossier à partir de l'été dernier, où, à la faveur de la crise du Covid et du manque de masques, nous avons vu réapparaître des petits métiers complètement disparus, les couturières, hein, et les couturiers d'ailleurs, qui sont réapparus avec leurs machines pour tisser des masques, parce qu'on n'en trouvait pas à ce moment-là. Et donc on s'est souvenu d'un passé en Dordogne, un passé industriel où il existait une petite industrie, notamment de la chaussure et du textile, qui avait complètement disparu et on ne savait même plus que ça avait existé. Et finalement, quelque chose de réapparaissait qui était de l'ordre du travail du textile. Et je m'étais dit, tiens, il y a peut-être matière à creuser finalement et savoir si il y a des initiatives au-delà de cette expérience ponctuelle liée au manque de masques. Il y a peut-être des initiatives pour réinventer finalement cette industrie textile. On savait qu'il y en avait puisqu'on connaissait l'expérience du cuir. Donc il y avait un cluster cuir qui était réapparu au début des années 2000, donc pour redonner ses lettres de noblesse à cette matière. Mais on ne savait pas, au-delà de cette expérience, s'il y avait volonté locale de refaire naître finalement une industrie textile.
Dans cet épisode, on va parler de différentes initiatives de naissance et de renaissance qui découlent parfois de la crise sanitaire. Quel impact a eu cette pandémie sur le textile ?
Alors l'impact, je pense, puisque les initiatives dont nous avons parlé, elles sont toutes nées un peu avant la crise. Elles ne sont pas issues de la crise, c'est trop récent. Mais par contre, ce qu'a changé la crise à ce moment-là, c'est une prise de conscience qui s'est faite autour de la consommation locale, de l'importance, comme pour l'alimentaire finalement, de retrouver les ressources dans nos territoires pour ne plus être dépendant des importations. Donc c'est vrai pour les fruits et légumes par exemple, on a vu vraiment un retour à une consommation locale. C'est également vrai pour le textile, les gens ont pris connaissance finalement qu'il y avait des initiatives et les ont soutenues. Plusieurs de ces initiatives sont passées d'ailleurs par des financements participatifs et ont eu un réel succès qui leur a permis d'aller plus loin.
Par exemple, dans la Double du Périgord, deux femmes ont eu l'idée de recréer une filière laine. Ce projet est né d'une rencontre. Racontez-nous. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Double ?
Bien sûr, la Double, c'est une forêt en fait. C'est vraiment la principale forêt de Dordogne. Hein. C'est une forêt dans le nord-ouest, on va dire, de la Dordogne, qui est finalement marquée un peu par des terrains acides, des terrains pauvres. Ce sont des petites exploitations autour de l'élevage. Et donc, dans la Double, il y a des initiatives, là aussi, tout à fait intéressantes. Et celle dont nous parlons dans ce dossier, c'est celle de Thérèse Collère. C'est une bergère sans terre, qui est arrivée finalement dans ce secteur pour y élever des moutons. Mais elle a cette particularité de n'avoir pas d'exploitation, c'est-à-dire qu'elle pâture dans les espaces laissés vacants par l'agriculture qui disparaît peu à peu. Donc voilà, elle a des moutons de race rustique qu'elle promène selon les petits contrats qu'elle peut avoir avec des communes ou des particuliers pour aller entretenir les terrains. Et donc ça lui permet finalement d'avoir un troupeau assez conséquent, hein, je crois qu'elle a 300 bêtes. Et ce qu'on ignorait, c'est qu'elle souhaitait également valoriser la laine de ses moutons, en plus de la viande de ses agneaux. Et donc elle a rencontré une personne qui s'appelle Catherine Racourcier et qui est tisserande par passion. I want to grow up to wear a little jacket, and that little jacket is gonna hold my soul.
À partir de cette laine, Thérèse et Catherine réalisent des tapis. Elles ont même créé une association de valorisation des laines de la Double. Où en sont-elles aujourd'hui? Quel est leur objectif?
Alors effectivement, elles ont créé cette association des laines de la Double pour essayer d'entraîner d'autres personnes dans leur projet. Parce que pour l'instant, elles n'étaient que deux à mener cette expérience. C'est-à-dire que toutes les deux filaient la laine des moutons de Thérèse, qui est une laine épaisse, parce que ce sont des moutons de race rustique, qui pâture en sous-bois, donc c'est vraiment une laine qui n'a rien d'une laine très fine des alpagas ou d'autres races plus dédiées justement à faire de la laine. Donc elles ont mis en place un process qui les oblige à aller chercher les outils pour travailler cette laine, les machines à tisser, là où elles sont, et notamment pour travailler des laines de moutons rustiques. Donc elles partent toutes les deux pour faire laver la laine en Ariège, où elles trouvent là une entreprise qui est capable de faire ce travail. Hein. Elles partent lorsqu'elles ont 100 kilos de laine. Et ensuite, elles vont la faire carder aussi, parce qu'il y a tout un travail autour de cette laine avant de pouvoir la tisser sur les métiers à tisser. Elles vont la faire carder dans les Pyrénées. Il y a de la transhumance et où on est habitué à travailler ce type de laine dite jarreuse, c'est-à-dire grossière. Et aujourd'hui, elles sont en train de s'équiper. Donc là aussi, elles sont passées par un financement participatif. Elles ont réussi, à ma connaissance là, à acheter une cardeuse. Ensuite, elles cherchaient un lieu pour installer cet outil qui est quand même de grande envergure, parce que, bonne nouvelle, les tapis ont trouvé preneur, quoi. Elles arrivent à en vendre, ils sont relativement chers parce que c'est quand même un travail manuel qui demande beaucoup de temps, parce qu'évidemment, avec cette laine épaisse, je ne l'ai pas dit, mais impossible de faire des pulls. Les pulls seraient trop rêches, nos peaux ne supportent plus ce type de matériaux.
On quitte la laine pour le coton. Margot Juranville a créé la marque Until il y a 3 ans, alors qu'elle est encore étudiante. Quel est le concept de sa marque?
Elle veut créer une marque qui utiliserait que des cotons français, bio si possible, pour produire, pour l'instant ce sont des t-shirts et des sweatshirts de marque française, éthique. Elle vient de Dordogne, cette jeune personne. Elle a fait ses études en Dordogne, maintenant elle est sur Bordeaux. Elle a aujourd'hui, effectivement, ouvert une boutique à Bordeaux. C'est pas rue Sainte-Catherine, c'est passage Sainte-Catherine. Et elle vend également en ligne. Alors pour l'instant exclusivement des t-shirts et des sweatshirts, comme je l'ai dit, mais visiblement elle veut s'intéresser à faire des vêtements pour le bas du corps. Donc aujourd'hui, c'est des vêtements unisex qui vont aussi bien aux garçons qu'aux filles. Elle veut des coupes identiques pour casser les codes vestimentaires. Voilà, c'était son point de départ.
Où sont confectionnés les modèles d'Until et quels sont leurs prix?
Alors les modèles d'Until sont confectionnés dans des ateliers de Nouvelle-Aquitaine. Il y en a plusieurs. Nous, en Dordogne, nous en avons un à la Tour Blanche, dans les ateliers tricot de la Tour. Voilà. Et leurs prix, donc c'est des prix forcément un peu plus chers que des t-shirts que vous trouvez classiquement dans le commerce. Pour un t-shirt, il faut compter 50 euros et pour un sweatshirt 100 euros. Enfin, voilà. je suis précise, c'est peut-être pas aussi précis, mais c'est à peu près l'ordre d'idées. Et Margot défend évidemment cette notion de qualité-prix et finalement d'une fabrication uniquement française et dans les ateliers de Nouvelle-Aquitaine.
Les ateliers Tricot de la Tour, situés dans la commune de la Tour Blanche Cercle en Dordogne, où je le rappelle, les modèles de Margot Juranville sont tricotés et confectionnés, sont en pleine éco-conversion. Expliquez-nous.
C'est un atelier qui existe, enfin qui est historique, c'est un atelier familial, puisqu'il est écrit qu'ils sont tricoteurs depuis 1947. Ces ateliers ont été repris par un entrepreneur qui s'appelle Franck Sorda et qui a remis au goût du jour les tricots de la Tour en y tissant et en y fabriquant les vêtements de ces marques d'ateliers qui sont Moulin Neuf et Loulou Marmot, pardon, pour les vêtements pour enfants, et aussi en mettant son équipe d'12 salariés. Son équipe et ses savoir-faire à la disposition de personnes comme Margot Juranville, par exemple, qui voudraient faire fabriquer leurs vêtements dans des ateliers locaux. Donc Franck Sorda a repris ses ateliers en 2010 et aujourd'hui, il doit faire une grosse transformation, une grosse éco-conversion pour que ses ateliers soient plus écologiques, on va dire. Par exemple, il doit enlever sa toiture pour y implanter des panneaux photovoltaïques. Et bon, pour ça, c'est assez cher. Et il veut également créer une unité pour tricoter finalement du lin et du chanvre, donc deux matières dont ils veulent vraiment utiliser à 100% le textile. C'est intéressant parce que, on en parlera peut-être, mais c'est des matières végétales qui peuvent être produites en Dordogne. Voilà, il a besoin donc d'argent et il a lancé un financement participatif, un pacte vert, il appelle ça, où il propose à ses acheteurs, finalement, de l'aider dans cette éco-reconversion. Voilà, c'est assez intéressant comme entreprise. Et là aussi, apparemment, les gens ont répondu présents pour soutenir une unité de fabrication en Dordogne.
La dernière filière abordée dans votre dossier, dont on va parler ensemble, Nelly, c'est celle du cuir. Un cluster réseau cuir a d'ailleurs vu le jour. Quel est son but et de quels acteurs est-il composé ?
Alors ce cluster, c'est une longue histoire, c'est un travail qui est né du constat qu'en Dordogne, heureusement, nous avons encore des élevages en plein air avec du cuir de très bonne qualité. Effectivement, encore des entreprises de luxe, pour ne citer qu'elles, je citerai Hermès, mais il y en a bien d'autres, qui cherchent du cuir de qualité et qui vont le chercher ailleurs. Donc en 2014, est né un PER cuir. C'est PER, vous le savez sans doute, c'est un pôle d'excellence rurale, pour créer une filière de cuir locale et pour la valoriser au titre de patrimoine immatériel et pouvoir l'utiliser et pouvoir finalement rémunérer mieux tous les acteurs de cette filière. Donc on estime un potentiel de 3800 emplois, donc c'est pas rien hein, dans nos territoires ruraux, à la condition évidemment que cette filière soit structurée. Donc cette filière, elle est en train de se mettre en place, elle est même très avancée. Donc on a créé des ponts qui n'existaient pas forcément entre les métiers de l'élevage, de la transformation, du négoce et la vente des pots et les industries et les ateliers finalement artisanaux qui fabriquent des objets en cuir, mettant en œuvre des savoir-faire traditionnels. On avait tout, mais finalement ces gens-là ne se connaissaient pas ou ne se parlaient pas beaucoup et on préférait utiliser des cuirs venus d'ailleurs. Donc ça, c'est en train de s'arrêter et il y a un véritable engouement autour de cette matière qui a été étendue à toute la Nouvelle-Aquitaine à partir de 2017, puisque c'est la date de création du cluster Réseau Cuir.
Mais que ça peut l'être chaud chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bombardier. J'ai dit hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté?
Nelly, selon vous, quel défi doit relever la filière textile aujourd'hui en Périgord ou ailleurs face à la crise actuelle? Est-ce que vous pouvez répondre d'ailleurs à la question de votre dossier finalement qui est « Le textile fabriqué en Périgord, c'est un rêve ou une réalité ?»
Je dirais que, comme souvent, comme pour l'alimentaire, c'est un choix de consommation. Soit effectivement, on continue à choisir son textile en fonction du prix ou de la mode, et on accepte et on assume de faire travailler des ateliers en Chine avec les conditions de travail que l'on sait, soit on décide que non, finalement, on n'en veut plus, on va consommer français, voire néo-aquitain, et auquel cas, on accepte peut-être de payer un peu plus cher, mais voilà, au moins, on est tout à fait raccord avec ce qu'on pense et ce qu'on défend comme valeur. Donc je pense qu'effectivement le défi il est là, il est dans ces initiatives que l'on mène avec les consommateurs, hein, parce qu'à partir du moment où ils acceptent de financer un projet local comme ça, ils ont un droit de regard, ils ont quelque part ça devient un peu leur initiative aussi. Et je pense que c'est ça, c'est par ces initiatives-là que l'on arrivera peut-être à créer des petites unités qui vont réinventer l'industrie textile qu'on avait totalement oubliée, encore une fois. Il faut maintenant la réinventer.
Merci beaucoup Nelly Fry d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je recommande vivement la lecture de ce dossier. Il s'appelle « Des textiles made in Périgord, rêve ou réalité » et il est à retrouver dans le numéro 45 mars-avril du magazine Famosa.
Merci Marion Ruault, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde L'Oeil, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.